Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de À Propos. Ceci est notre première session de À Propos pour l'année 2026. Et comme nous avions annulé les deux dernières semaines en raison de la fin de semaine familiale d'hiver, nous avons beaucoup de choses à mentionner, bien plus que ce que je pourrais couvrir en quelques minutes. Avant d'aborder mon sujet, je souhaite faire une brève référence à de récents événements toujours en cours de déroulement. Comme vous le savez, samedi dernier, nous nous sommes réveillés avec la nouvelle selon laquelle les États-Unis avaient mené une opération militaire au Venezuela, ayant abouti à l'arrestation de son président, Nicolas Maduro. Sa légitimité en tant que président a été remise en question dans la plupart des pays du monde. Mais le fait qu'un président en exercice d'un autre pays ait été arrêté et accusé de plusieurs crimes très graves a été certainement choquant, bien que cela ne soit pas sans précédent. Tout cela devrait assurément dissiper le moindre doute quant à la dangerosité de l'époque dans laquelle nous vivons. La menace de guerre avec des opérations militaires supplémentaires est une possibilité réelle. Je ne mentionne cela que pour encourager chacun d'entre nous à suivre les événements mondiaux. La Bible décrit ces jours en détail dans Matthieu 24 et dans Luc 21, 36. Il nous est dit de veiller alors que les événements précédant le retour de Jésus-Christ se déroulent. J'exhorte chacun d'entre nous à prêter attention à ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. De nombreux analystes de l'actualité ont qualifié cette période comme la plus dangereuse dans le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Passons maintenant aux nouvelles de l'Église. Certains d'entre vous sont peut-être déjà au courant de cette première annonce, probablement faite au cours de votre assemblée du sabbat dernier. Malheureusement, jeudi dernier 1er janvier, David Becker, notre directeur régional pour l'Asie et les Philippines, m'a informé du décès d'un ancien de longue date et pasteur retraité aux Philippines, M. Florante Siopan. Lui et son épouse, Lena, ont servi dans le ministère philippin depuis la date de son ordination en 1998 jusqu'à sa retraite du ministère à plein temps en 2017. Il était en mauvaise santé depuis quelques années et il est décédé à l'âge de 87 ans. J'aimerais lire quelques commentaires que David Becker a fait lorsque M. Siopan a pris sa retraite en 2017. Florante a été un berger fidèle dans le soin apporté aux troupeaux. Il est plein d'amour et bienveillant, toujours présent pour encourager et réconforter. C'est un enseignant passionné qui parle avec le cœur, instruisant les membres dans la voie de vie de Dieu. Et, plus important encore, Florante et Lena ont donné un bel exemple en incarnant la voie divine. Lorsqu'il fallait protéger le troupeau ou combattre l'hérésie, Florante était là, prêt à se tenir dans la brèche. M. Siopan était le ministre principal aux Philippines, tant par son âge que par la longévité de son service. Il manquera profondément à sa famille et aux frères et sœurs des Philippines. Passons maintenant à une mise à jour concernant le nouveau centre d'apprentissage en construction sur notre propriété à Mactinet. Les choses avancent un peu plus lentement que nous le souhaiterions, mais dans l'ensemble, nous faisons d'excellents progrès. Au cours des deux dernières semaines de l'année, le terrain a été nivelé, en préparation de la fondation, et des piliers en béton ont été coulés le long de son périmètre. Cela est dû à la qualité moyenne du sol avec lequel nous avons dû composer pour la construction du bâtiment. La plomberie et l'électricité sont en cours de préparation pour la fondation qui devrait être coulée dans les prochaines semaines. L'achèvement est estimé pour l'automne 2026. La construction finale sera donc un centre d'apprentissage de 1100 m². Il comprendra un auditorium de 500 places au centre du bâtiment. Le nouveau bâtiment servira de centre pour tous nos programmes éducatifs, avec un accent particulier sur l'Institut du Fondement. L'auditorium servira également de lieu de réunion sabbatique régulier pour la congrégation de Dallas. Je souhaiterais à présent vous donner des nouvelles de mon tout dernier voyage au Chili. Il s'agissait d'un voyage de 12 jours et c'était mon premier voyage international depuis mon opération. Le jeudi soir, 11 décembre, Sharon et moi, accompagnés de Phil et Marlise Sandilands, avons voyagé des États-Unis à Santiago, au Chili, pour une visite de l'église locale. Il y avait deux raisons à ce voyage. Tout d'abord, j'ai choisi le Chili comme la meilleure destination pour mon premier voyage international depuis mon opération du cœur. En second lieu, M. Sandilands a récemment été nommé directeur régional adjoint pour l'Amérique latine et il remplacera finalement M. Walker en tant que tel lorsque celui-ci prendra sa retraite. Phil avait lui-même souhaité venir au Chili pour sa première visite d'église en Amérique latine. Ainsi, pour ces deux raisons, nous avons choisi le Chili comme point de départ. Nous sommes rentrés à Dallas le 22 décembre. Ce fut un voyage merveilleux. Mais avant d'en aborder les détails, permettez-moi de vous donner quelques informations sur l'œuvre en langue espagnole. Monsieur Léon Walker fait partie de l'œuvre hispanophone depuis ses débuts en 1956 dans l'église radiophonique de Dieu à Bricketwood, en Angleterre. Le docteur Benjamin Ray avait été nommé comme premier directeur. Et Monsieur Walker a été son premier employé. Après le décès prématuré du docteur Ray, d'autres ministres ont reçu la responsabilité de directeur régional au cours des 20 années suivantes environ. Puis, en novembre 1979, Monsieur Walker a été nommé directeur régional pour l'Amérique latine par Monsieur Herbert Armstrong. Il a occupé cette fonction depuis lors. Actuellement, il n'y a personne dans le ministère qui ait occupé un poste aussi longtemps que Monsieur Walker. Plus tôt cette année, il a approché de Gortschak et moi-même au sujet de la possibilité de nommer quelqu'un pour l'assister. Cet homme prendrait ensuite la relève lorsque Monsieur Walker décidera de prendre sa retraite afin d'éviter de laisser un vide dans la direction. Les services ministériels ont donné à Monsieur Walker les noms de deux pasteurs américains comme recommandation. Après avoir rencontré ces deux hommes et leurs épouses, Monsieur Walker a recommandé Phil et Marie Sandilands pour l'assister et être formé en prévision de la retraite de Monsieur Walker. Nous sommes conscients que l'annonce de la nouvelle affectation de M. Sandilands a été une déception pour les frères et sœurs d'Arizona, puisqu'il venait tout juste d'être transféré dans la région en tant que nouveau pasteur. Notre intention est d'envoyer un nouveau pasteur en Arizona cet été pour remplacer M. Sandilands. Nous ferons cette annonce, ainsi que d'autres transferts pour l'année 2026, dans toutes les congrégations des États-Unis ce prochain sabbat, le 10 janvier. L'œuvre en Amérique latine est de loin la plus grande institution internationale de l'Église de Dieu, association mondiale. Dans cette région, nous comptons plus de 1800 membres qui assistent aux assemblées chaque semaine. Nous avons des congrégations s'étendant de l'Amérique du Sud à l'Amérique centrale, au Mexique, aux Caraïbes, ainsi que des groupes dispersés en Europe et dans d'autres parties du monde. Et ce ne sont pas moins de 18 anciens qui servent en Amérique latine, dans sept pays différents, où tous relèvent de M. Walker et à l'avenir de M. Sandilands. Et avec un pasteur à la retraite au Mexique, M. Pablo de Maquis, nous avons un total de 19 ministres dans la région. Il n'existe aucune autre partie de notre œuvre internationale qui compte autant de membres et autant de ministres. M. Sandilands y sera certainement un homme très occupé. Nous envisageons une période de formation de 1 à 2 ans durant laquelle il travaillera en étroite collaboration avec M. Walker, M. Hortschak et moi-même au moyen des nombreuses ressources qui seront mises à sa disposition sur le bureau central numérique. À présent, j'aimerais vous donner un aperçu de notre récent voyage. Nous sommes arrivés à Santiago le vendredi 12 décembre après un vol de nuit depuis Dallas. C'était mon premier voyage international depuis mon opération en juillet. Cela a été fatigant, mais dans l'ensemble, je m'en suis bien sorti. Le lendemain, le sabbat du 13 décembre, nous avons tenu une assemblée le matin à Santiago avec 315 personnes présentes. Monsieur Sandilands et moi avons prononcé des demi-sermons en espagnol. L'après-midi, tout le monde est resté pour le déjeuner dans la salle de l'église, et le soir, nous avons dîné avec un groupe d'anciens. Le dimanche 14 décembre, nous avons organisé un déjeuner pour tous les participants du programme international de leadership, ce qui représentait environ 40 personnes, en comptant les hommes et leurs épouses. Monsieur Sandilands et moi avons tous deux pris la parole en espagnol devant l'Assemblée. J'ai présenté un bref historique du programme et après le déjeuner, nous avons eu droit à des danses traditionnelles chiliennes interprétées par de jeunes membres. C'était très divertissant. Voir les jeunes aussi impliqués dans l'église et servir de cette manière était très encourageant. Le dimanche soir, nous avons de nouveau dîné avec des membres de la région de Santiago. Et le mardi 16 décembre, nous avons fait le trajet de quelques heures en voiture, hors de la ville jusqu'au site local de la fête. Il s'agit d'un site relativement nouveau. Pendant bien des années, les églises du Chili se réunissaient dans le sud du pays pour la fête des tabernacles. Ce nouveau site se trouve sur la plage et n'est qu'à quelques heures de route de Santiago. L'emplacement choisi pour l'événement est la ville côtière d'El Quisco. Le propriétaire de l'hôtel, où les assemblées ont eu lieu l'année dernière, fait construire actuellement un auditorium indépendant, moderne et spacieux, qui sera prêt et disponible avant la fête de cette année. Il est enthousiasmant de voir un si bel endroit pour que les frères et sœurs du Chili puissent y célébrer la fête des tabernacles. Puis, mercredi, nous avons continué de voyager dans la région et à rendre visite aux frères et sœurs. Nous avons également visité le bureau de l'église et discuté des projets futurs pour l'œuvre au Chili. Et mercredi soir à 21h, j'ai dirigé une étude biblique qui a été diffusée sur Internet dans toute l'Amérique du Sud. Ce fut un défi avec mon espagnol limité, mais il semble que cela ait été bien accueilli. Puis, jeudi, nous avons pris la route vers le sud en quittant la ville pour Talca, où nous avons rencontré Alvaro Matamala et son épouse, Fabiola. Monsieur Matamala travaille à plein temps dans le ministère et sert dans la région de Talca. Vendredi, nous avons visité un magnifique parc de la ville le long de la rivière. Nous avons eu droit à un mini-concert offert par deux étudiants du collège local qui se sont également produits aux États-Unis. Ils étaient des amis de Monsieur Matamala. Tous deux jouaient du violon et ils nous ont divertis pendant environ une demi-heure. Ce fut un merveilleux et vraiment magnifique mini-concert juste avant le sabbat. Le lendemain, nous avons eu l'assemblée à Talca, avec plus de 100 personnes. Monsieur Sandilands et moi avons prononcé à nouveau deux demi-sermons. Après l'assemblée, nous avons pris part à un déjeuner organisé dans la salle de l'église pour tous les membres, puis le samedi soir, nous avons dîné avec les Matamala. Puis, le dimanche 21 décembre, de retour en voiture à Santiago, nous avons rendu visite à quelques membres en chemin, puis nous nous sommes rendus à l'aéroport, où nous avons pris un vol de nuit, tard dans la soirée, pour rentrer à Dallas. Le voyage a été fatigant, mais inspirant. Les membres et le ministère au Chili sont tellement remplis d'enthousiasme et d'amour pour l'Église que cela en était véritablement contagieux. Les Sandilands se sont extrêmement bien comportés et ont été bien accueillis partout où nous sommes allés. Mais en raison de mon voyage, je n'ai pas pu me rendre à la fin de semaine familiale d'hiver à Louisville, dans le Kentucky. J'espérais pouvoir y assister cette année puisque, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas pu y participer au cours des trois dernières années. Cette année, nous sommes rentrés du Chili le 22 décembre et la fin de semaine familiale hivernale a commencé le 23 décembre. Je ne pensais pas pouvoir faire un retour aussi rapide, j'ai donc choisi de ne pas y assister cette année. Mais j'ai de grands espoirs de pouvoir y participer l'année prochaine. Même sans moi, le bureau du siège était bien représenté et d'après tout ce que j'ai entendu, ce fut un événement remarquable avec plus de 1100 personnes inscrites pour cette fin de semaine. Ce chiffre fait de la fin de semaine familiale d'hiver le plus grand rassemblement de l'année, dépassant tous nos sites de fête en 2025. Je tiens à remercier Nathan Willoughby, le pasteur local et son épouse Amanda, ainsi que les membres de la région de Louisville pour leur organisation et leur travail acharné. Ils ont permis de faire de cet événement un réel succès. Traditionnellement, le pasteur de la congrégation de Louisville supervise cette activité. Mark Wenner et son épouse, Colleen, se sont occupés de cela pendant plusieurs années, puisque cette fin de semaine existait en fait avant le début de l'EDAM. Je suis heureux d'annoncer que cette formidable activité a été couronnée de succès en 2025. Nous anticipons dès maintenant le mois de décembre prochain, lorsque l'événement se tiendra à nouveau au Galta House à Louisville. Monsieur Willoughby m'a envoyé quelques statistiques préliminaires sur la fin de semaine et ils sont très encourageants. Le nombre réel d'inscriptions était de 1154, ce qui constitue la plus grande présence depuis 2017. Lors des cours de formation continue, dispensés principalement par nos deux instructeurs, le Dr Ralph Levy et Monsieur David Johnson, nous avons enregistré plus de 400 participants dans la plupart des cours. C'était également un nombre record. Nos effectifs ont légèrement diminué lors de l'assemblée du sabbat. Il semble que certains aient attrapé des virus saisonniers, mais notre participation en ligne a établi un nouveau record. Monsieur Willoughby m'a écrit que cette année, nous avons eu la plus grande participation pour la soirée pizza gratuite, avec 954 personnes inscrites à cette activité. Toutes les activités ont enregistré une fréquentation record. Ce fut une bonne année dans l'ensemble, et selon le rapport de Monsieur Willoughby. Je vous encourage également tous à aller en ligne et à consulter notre site web pour recevoir les nouvelles de notre dernier camp de 2025, le camp d'hiver dans le Wisconsin. Le nombre de campeurs était faible, mais il m'a été dit que l'attitude et l'enthousiasme étaient excellents. Monsieur Larry Solomon, le pasteur de notre congrégation de Minneapolis, a de nouveau été le directeur du camp cette année. Monsieur Solomon a rédigé cette mise à jour le 29 décembre. Le camp d'hiver commence vraiment très bien cette année. Nous avons actuellement 32 campeurs ainsi que 22 membres du personnel. Tout le monde est arrivé sain et sauf, et il y a beaucoup d'enthousiasme dans l'air avec plusieurs centimètres de neige fraîche la nuit dernière, bien que les températures ne dépasseront pas le point de congélation pendant tout le camp. Un campeur du Sud a fait remarquer qu'il n'avait jamais vu autant de neige de toute sa vie. Comme si tous ces événements ne suffisaient pas, avec des nouvelles sur l'avancement du nouveau bâtiment, un voyage au Chili, la fin de semaine familiale d'hiver et des nouvelles du camp d'hiver, nous avons également inclus deux départs à la retraite ministérielle le sabbat du 3 janvier 2026. Chris et Angela Moen à Grand Rapids, Michigan, ainsi que Harris et Patricia Lazo, au Zimbabwe. Les deux couples ont pris leur retraite le 3 janvier. Tim Waddell et Neville Smith, d'Afrique du Sud était présent pour la retraite de Harris et Patricia Lazo. Harris était le pasteur de plusieurs congrégations dans la région de Harare. D'après tous les témoignages, ce fut un sabbat merveilleux, honorant deux serviteurs de longue date au Zimbabwe. Mon épouse et moi, accompagnés de David et Pamela Myers, avons pris l'avion pour Grand Rapids le vendredi 2 janvier. Et nous sommes passés d'une température de 21 degrés à Dallas à moins 9 degrés dans le Michigan. Et croyez-moi, nous avons ressenti la différence. Monsieur Moen est le premier de 6 ministres américains à plein temps qui prendront leur retraite en 2026. La sienne a eu lieu le 3 janvier, ce qui fait de lui le premier de l'année. Il sera suivi par 5 autres, tout au long de l'année 2026. Harris Lazo a été le premier de 2 ministres internationaux prévus pour prendre leur retraite cette année. Nous vous tiendrons informés à mesure que chaque date approchera et nous vous ferons savoir comment les choses se sont passées. Puisque j'étais présent lors du départ à la retraite des Moen, permettez-moi de faire quelques commentaires au sujet de Monsieur et Madame Moen. Je laisserai à Monsieur Hortchak, dans un futur à propos, le soin de commenter au sujet de Monsieur et Madame Lazo. Chris Moen a été ordonné ancien dans l'Église universelle de Dieu en 1991, il y a 34 ans. Et en 2002, il y a 23 ans, il a été embauché à temps plein dans le ministère de l'Église unie de Dieu. En 2017, Chris est venu à Grand Rapids pour remplacer Gary McKanae et il a servi en tant que pasteur associé ici dans l'ouest du Michigan, travaillant avec le pasteur Mike Anisco depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Je suis maintenant très reconnaissant que notre temps à l'EDAM, depuis 15 ans, ait été une période de paix et de construction de relations. Nous sommes très reconnaissants pour les contributions que Chris et Angela ont apportées à l'Église en servant les frères et sœurs au cours des 30 dernières années et plus. Il y a véritablement un fil conducteur dans tout ce que j'ai abordé dans l'édition d'À propos cette semaine. Je voudrais que vous vous reportiez avec moi, dans Hébreux 6, verset 10. Vous trouverez ici une référence au service envers les frères et sœurs. Que nous parlions du nouveau bâtiment, de la fin de semaine familiale d'hiver, des visites d'église ou du départ à la retraite de l'un de nos ministres, il y a un thème constant de service. La joie et la paix viennent lorsqu'il y a un esprit de service. Ainsi, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, nous lisons ces mots importants et réconfortants. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Lorsque nous nous servons les uns les autres, qu'il s'agisse d'un ministre, d'un responsable ou d'un simple membre, nous adorons véritablement Dieu et nous rendons honneur à son nom glorieux. Que ce soit lors d'une fin de semaine familiale d'hiver ou dans une église locale, un esprit de service produira de bons fruits. J'ai été heureux d'être présent lorsque nous avons honoré les Moen le sabbat dernier. Eh bien, ce sera tout pour le moment de notre côté. La semaine prochaine dans À propos, nous entendrons Doug Hortchak, qui nous donnera des nouvelles de son dernier voyage en Asie. Et dans 2 semaines, David Myers fera le point détaillé et complet sur les services ministériels, au cours duquel il annoncera officiellement les mutations prévues pour cette année, 2026, ainsi que les sites de fête approuvés aux États-Unis. Ne manquez surtout pas ces très importantes annonces prochaines. Je vous souhaite un sabbat paisible et édifiant et je vous retrouverai dans quelques semaines. Au revoir donc, et à bientôt.